RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
GG les grandes gueules sur RMC, RMC Story les grandes gueules avec aujourd'hui Flora Guebali, Abel Bouilly et Jean-Loup Bonamy. Vous prenez la parole bien sûr avec nous au 32-16 durant cette deuxième heure des GG, au cours de laquelle je vous propose d'ailleurs de le faire tout de suite. Nous allons parler politique et d'immigration. Il faut mettre un terme à l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui, c'est ce que dit le garde des Sceaux, l'actuel garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Et il fait donc une proposition.
Mettre en place un moratoire de 3 ans sur l'immigration légale, car selon lui, nous sommes arrivés à la limite de nos capacités d'intégration et d'assimilation. Et pour cela, il faudrait pendant 3 ans stopper cette immigration légale. Parmi ses autres propositions, il veut empêcher que certains titres de séjour ouvrent droit au regroupement familial. Il veut conditionner les visas à l'acceptation des OQTF, les fameuses obligations de quitter le territoire français, par les pays d'origine, ou encore aussi instaurer de véritables quotas migratoires. Une vieille proposition. Mais pour mettre en place ces mesures, il faut changer la constitution, dit le ministre de la Justice. Alors le problème, c'est que lorsqu'il était au ministère de l'Intérieur, de 2020 à 2024, entre 1 200 000 et 1 500 000 titres de séjour ont été délivrés.
Effrayant.
Le problème, c'est qu'il veut corriger une situation qu'il a lui-même contribué à créer. Est-il crédible? Alors ça, c'est sur peut-être une critique plus personnelle, mais sur le fond, a-t-il raison?
Monsieur Jean-Loup.
Moi, sur le fond, je pense qu'il a totalement raison et que même sa proposition, en fait, qui a l'air radicale, en fait, est quand même vraiment très tiède et très modérée par rapport à la gravité de la situation. Parce que quand il dit qu'on est arrivé au bout et depuis longtemps de nos capacités d'intégration, l'actualité le démontre tous les jours. Donc oui, on est vraiment au bout et c'est pas ensuite. Donc il faut absolument arrêter les flux, il faut commencer par là, et c'est pas en les suspendant pendant seulement 3 ans, parce que 3 ans, en fait, c'est rien. Faut les suspendre pendant à minima 30 ans, hein, si on veut pouvoir justement intégrer ceux qui sont déjà là, qui sont issus de l'immigration, régler les problèmes qui sont très graves, éviter des troubles qui pourraient être gravissimes, il faut suspendre l'immigration pendant plusieurs décennies, hein, et aller beaucoup plus loin et beaucoup plus longtemps. Et justement, il faut. Et d'ailleurs, tu remarques que c'est une colère contre l'immigration qui monte partout. Je veux dire, tu fais des sondages, il y a 75% des Français qui te disent qu'il faut arrêter l'immigration. Toutes tendances politiques confondues, que ce soit au RN, chez les électeurs centristes ou à gauche, même chez les électeurs de gauche, le sentiment anti-immigration est aujourd'hui majoritaire. Donc Gérald Darmanin, il est juste, comme il est un peu moins déconnecté que les autres du bloc central, il se rend compte que quand même il y a un problème, il est un peu plus à l'écoute du sentiment de la
c'est
population.
C'est bien d'annoncer des choses, mais après, faut expliquer.
Eh ben, justement, il dit qu'il faut réformer la Constitution. Moi, je pense qu'il faut tout simplement dissoudre le Conseil constitutionnel. Tu vois, commençons par là, hein. Commençons par le commencement.
Mais c'est pas lui qui arrêtera les flux migratoires, le Conseil constitutionnel.
Oui, non, mais le Conseil constitutionnel, c'est lui qui fait que toute mesure pour les réguler est immédiatement retoquée.
Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit
qu'il fait que t'as les mains liées.
Voilà, pour pouvoir prendre des mesures plus fermes.
Ah, bah, ça, je suis d'accord.
Abel.
Bah, c'est encore quelqu'un qui, pour lancer sa campagne présidentielle, lance le sujet de l'immigration. Alors avant qu'on me dise, est-ce qu'il faut en parler? Évidemment qu'il faut en parler. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, puisque les Français veulent de la radicalité, faut assumer. Soit on a quelqu'un qui dit, on continue comme maintenant et on travaille sur de meilleures capacités d'accueil, en étant plus ferme sur l'immigration illégale. Soit quelqu'un qui vient proposer un projet, par exemple, comme au Canada. Canada, qui est pourtant un pays très multiculturel, mais pourtant vous avez des conditions assez strictes en réalité.
C'est ce que propose Gabriel Attal.
Donc,
l'immigration à la carte,
ça,
façon canadienne.
Voilà. Et on l'assume. Mais qu'on arrête de balancer des choses en fait qui sont inenvisageables. Quand il dit il faut arrêter l'immigration pendant 3 ans, on sait très bien qu'en l'état ce n'est pas possible. C'est juste pour exciter quelques personnes qui vont encore être déçues à la fin et ça va créer plus de haine sur le terrain. Donc proposons un projet. Moi par exemple le projet à la canadienne ou à l'australienne, et je le répète, ce sont des sociétés très multiculturelles. Ça marche. Pourquoi ne pas le tenter? Mais faut arrêter de balancer des choses comme ça qui ne veulent rien dire.
Flora.
Le problème, c'est que c'est à peu près le genre de choses que Giorgia Meloni avait proposé en Italie et qu'elle a elle-même rétropédalé parce qu'elle avait besoin de main-d'œuvre pour travailler, vu que les Italiens font encore moins d'enfants que les Français, mais on n'est pas très loin d'eux. Et peut-être que dans quelques années, on leur
ressemblera. Tout à fait exact.
Giorgia Meloni, elle a commencé par dire on va faire un moratoire sur l'immigration. Et puis, très rapidement, elle a fait des accords pour limiter l'immigration illégale avec les pays voisins comme la Tunisie. Et puis, très rapidement, elle est revenue dessus en disant bah, en fait, on a besoin de 500 000 personnes pour travailler. Bah, elle a dit on a besoin de 500 000 personnes pour travailler.
Non, elle n'est pas revenue sur ces accords.
Non, pas sur ces accords.
L'immigration a freiné en Italie.
Et donc, en fait, elle a limité l'immigration clandestine, ce qui est une bonne chose, puisque c'est des personnes qu'on n'a pas les moyens d'accueillir, qui se retrouvent Port de la Chapelle et à Port du Trac.
Il veut des quotas migratoires.
Ça, c'est pas une bonne solution. Oui, mais un moratoire pendant 3 ans, je vois pas comment c'est possible. Et surtout, je vois pas comment le secteur économique va accepter une mesure pareille, puisqu'ils ont besoin de main-d'œuvre.
Il y a des millions de chômeurs en France. Il y a des millions de chômeurs en France. Je constate ça.
Et d'ailleurs, Darmanin est un petit peu contradictoire parce qu'à la fois il veut un moratoire, mais il veut aussi des quotas migratoires. Alors moi, je voudrais savoir ces quotas migratoires. Bah, quand est-ce qu'il les met
c'est
en place
zéro, mais avec des quotas.
Au bout de 3 ans.
C'est le modèle à la canadienne.
Moi, le modèle à la canadienne, autant le tenter.
Oui, mais pardon, mais Nicolas Sarkozy, moi j'adore parce que en fait, on a soit des pas de mémoire, enfin, soit on aime revivre toujours la même chose. Je veux dire, les quotas migratoires, c'était proposé par Nicolas Sarkozy en 2007.
Non, mais t'as vu sous quelle forme il a proposé.
Donc en 2026, on est toujours en train de faire des propositions. Alors, soit parce qu'on n'est pas capable de les appliquer, soit parce qu'ils sont inapplicables. Mais pardon, les quotas migratoires, j'ai l'impression d'entendre des débats qu'on a eus ici même dans les grandes gueules il y a 20 ans.
La terminologie, la sémantique qui avait été utilisée à l'époque, elle était quand même très clivante. Quoi. Ça te donnait vraiment l'impression de Français à part entière, de Français entièrement à part, d'immigrés qui sont tous les problèmes de la société. Ah si, il faut se souvenir de la sémantique de l'époque.
On peut non, poser la question, c'est le regroupement familial en fait. Ce qu'a fait en Italie,
mais moi je te parle de la sémantique, non, mais tu
Mélanie,
parles du projet de Sarkozy.
Mais soyons un peu concrets. Meloni, elle a en fait, elle a mis en place des quotas migratoires, mais elle interdit le regroupement familial. C'est-à-dire que les gens viennent travailler, mais ensuite ils repartent chez eux. Ils font pas venir
elle
leur famille.
Elle fait une noria de travailleurs qui après repartent.
Et en fait, ce qui fait gonfler les chiffres de l'immigration, c'est le regroupement familial. D'ailleurs, le travail, l'immigration travaille, parce qu'on dit toujours, il nous faut des gens, etc. C'est simplement la troisième cause d'immigration en France. La première, c'est le regroupement familial. La deuxième, ce sont les visas des étudiants. Et troisième, c'est le travail. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Darmanin dit qu'il faut lutter contre le regroupement familial. C'est ça qui fait gonfler les chiffres, en fait. Et c'est ça que Meloni a essayé de freiner chez eux.
Oui, mais tout ça, ce sont des mots. Faut présenter.
Ah non, c'est pas des mots, ça, c'est concret, ça.
Je comprends. Oui, c'est concret, mais
sauf que tu peux pas, en France, interdire le regroupement familial. C'est anticonstitutionnel. D'où la réforme de la Constitution que propose Darmanin.
D'accord, mais moi, je reviens maintenant aux candidats de façon globale. Il faut proposer un projet clair et avoir une ligne droite. On peut pas tout dire tout et son contraire. Darmanin, sa ligne, je la comprends pas. Donc, un peu de restriction, donc un peu de Zemmour, un peu de Canada. Moi, je comprends pas, en fait. Propose un projet et les Français trancheront. Mais on ne peut pas toujours, quand je me présente à l'élection présidentielle, premier sujet, bam, l'immigration, parce que je sais que ça va exciter les gens.
Mais si. Il faut sortir de ça. Ce qui excite les gens, c'est la non-réponse.
C'est la raison pour laquelle il faut proposer un projet clair. Parce que la première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. C'est pas l'immigration. Donc, viens avec ton projet clair et ne balance pas des idées pour voir comment ça va infuser sur le terrain. C'est ça le problème. Ils balancent des petites choses et en fonction de comment ça va infuser, là, ils vont s'adapter.
Là, il a une première proposition concrète. Et ce qu'il dit, c'est on peut commencer par le travail. Quand tu as un titre de séjour, ça ouvre le droit au regroupement familial. Ce que dit Gérald Darmanin, c'est
il faut limiter
vous pouvez avoir un titre de séjour OK pour bosser, mais vous n'avez pas le droit au regroupement familial.
C'est ce qu'a mis Meloni en Italie. Marrant parce qu'il cite pas Meloni, mais c'est la politique de Meloni.
Est-ce que ça c'est une bonne mesure ou pas?
Ah bah moi ça me paraît
vous travaillez mais vous ne faites pas venir votre famille.
Ça me paraît une excellente mesure. C'est-à-dire moi déjà je pense qu'on n'a pas besoin d'immigration de travail puisqu'il y a déjà beaucoup de chômeurs en France. Mais imaginons que je me trompe et qu'il y ait besoin d'une immigration de travail. Tu fais venir des gens, ces gens travaillent, ils viennent pour travailler parce qu'ils ont un travail et ils gagnent de l'argent, ils gagnent plus d'argent que ce qu'ils gagneraient dans leur pays. Ils peuvent envoyer de l'argent à leur famille, ils peuvent éventuellement faire construire une maison et après ils rentrent dans leur pays.
Donc, tu lui dis
d'origine.
Mais combien de temps tu lui dis de rester? Alors
bah, tu peux fixer 3 ou 5 ans. D'accord. Et d'ailleurs, il y a énormément de pays. Ce que je viens de décrire, c'est une réalité qui est extrêmement basique et banale dans énormément de pays. La noria des travailleurs immigrés, tu viens, tu travailles, tu viens sans ta famille et après tu repars avec ton argent. Ce que je dis là, qui paraît délirant en France, est une chose évidente, pratiquée massivement dans de très nombreux pays.
On a
et du coup, il n'y a pas les conséquences identitaires, culturelles du choc migratoire.
On a Ethan qui va en parler avec nous. Bonjour Ethan.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Vous êtes dans le secteur poids lourd, hein, si je me souviens bien, Ethan, c'est ça?
Oui, conducteur routier, en effet.
Conducteur routier. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de Darmanin, un moratoire sur l'immigration pendant 3 ans?
Moi, je suis pas d'accord, tout simplement parce que je peux constater que dans le secteur du transport logistique, l'immigration fraîchement arrivée, quand je dis fraîchement arrivée, c'est moins de 10 ans, eh ben elle est pas majoritaire, mais elle est très importante. Sans ces gens-là, je pense qu'on serait en grande difficulté.
Oui, mais si on arrêtait l'immigration, là,
attends,
de quel pays?
Attends, Ethan, j'ai une question.
Oui.
Comment vous expliquez qu'il y ait autant de Français qui trouvent pas de boulot et que dans votre secteur, ça recrute des immigrés?
Ben, tout simplement, malheureusement, parce que les gens ne veulent pas faire les métiers ingrats, difficiles. Par exemple, le samedi, la proportion de personnes d'origine immigrée, elle est phénoménale. Moi, le samedi, je peux constater 90% de gens d'origine immigrée, parce que les Français, nous ne voulons pas travailler le samedi, parce que on veut avoir une vie de famille, on veut partir en week-end. Voilà, ça, c'est une réalité que je constate sur le terrain.
J'ai une question, Ethan. Là, dans votre secteur professionnel, c'est une immigration qui vient surtout de quel pays, de quelle zone géographique?
Afrique du Nord, Afrique subsaharienne en majorité, dans le transport, le secteur logistique.
Oui, logistique. Et est-ce qu'ils vous paraissent aussi bien formés sur les règles de sécurité? Est-ce qu'il y a des problèmes ou pas du tout? Ça se passe bien?
Oui, faut pas sortir de Saint-Cyr pour maîtriser les règles de sécurité. En général, c'est pas très compliqué. Donc la formation, oui, elle est adéquate.
C'est l'entreprise qui te forme. Okay. Aussi.
Qu'est-ce que tu dis, c'est l'entreprise
qui forme un aussi. Interne. Bah oui, elle te forme, elle te donne les outils pour faire attention.
Ils ont les mêmes salaires que vous, salaire égal.
Oui, salaire égal, sauf que les conditions de travail, qu'on le sait tous dans le transport logistique, elles sont assez difficiles. Voilà, il faut travailler le samedi, il y a des amplitudes horaires importantes, c'est 10h, 11h, 12h.
Mais certains vous diront, c'est parce que justement, on trouve des gens qui sont prêts à accepter des conditions de travail difficiles que des Français n'y vont pas. Et donc, c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire que si ces conditions salariales et de travail étaient meilleures, peut-être que les Français iront vers ces métiers et on aurait moins besoin d'immigration.
Oui, alors, mais le problème.
Si je me mets du côté des patrons, les patrons me diront, on ne peut pas augmenter.
Oui, allez-y.
Le problème, je ne pense pas que c'est les salaires. Les salaires, ils sont conséquents. Un conducteur routier, par exemple, il tourne à 3 000-3 500 euros, donc c'est un bon salaire.
Oui, c'est
moi,
un bon
je pense
salaire.
Que c'est surtout les conditions de travail.
Par exemple, les conditions
comme
de
je vous l'ai dit tout à l'heure, le samedi, les gens ne veulent pas travailler. Voilà, c'est une réalité. Donc tant qu'on n'obligera pas les Français à occuper les métiers difficiles et ingrats, je pense qu'on ne pourra pas résoudre ce problème.
Mais c'est pour ça aussi qu'on a de plus en plus de médecins étrangers à l'hôpital, parce qu'on ne trouve plus de médecins français voulant faire des gardes, voulant faire des effectivement le week-end.
Sans oublier la restauration.
Ici, dans les grandes gueules, on le dit souvent, on a peut-être un problème, effectivement, avec le travail d'une manière générale en France.
C'est facile de dire ça depuis notre fauteuil.
Justement, et donc, déjà, d'une part, on peut revaloriser le travail, et deuxièmement, c'est
pardon,
ce qu'on disait
urgentiste,
d'ailleurs,
mine, hein.
et donc sur le modèle de Giorgia Meloni, si jamais vraiment on a besoin de gens pour travailler, il n'est pas nécessaire que ces gens viennent en plus avec leur famille. Parce que du coup, tu as un scénario où tu as besoin, imagine, tu as besoin d'une personne pour travailler, tu fais venir une personne, cette personne, après, via le regroupement familial, fait venir son épouse qui, elle, par exemple, ne travaille pas et, par exemple, disons, 3 ou 4 enfants qui, eux, non plus, ne travaillent pas, dont il faut s'occuper, qu'il faut scolariser, qu'il faut loger.
C'est dans le cliché. Et pourquoi pas 10 enfants
3 enfants, ça n'a rien de délire.
Parce que le mec serait polygame aussi. Allons au bout du cliché.
Trois enfants, ça n'a rien de délirant.
C'est pas ce qu'il a
donc,
dit.
Donc, c'est pas ce que j'ai dit. Trois enfants, n'a rien de délirant.
D'une femme et de 3 enfants.
Donc, il faut loger toute la famille, ça accroît la crise du logement, il faut scolariser les enfants, il faut les soigner en cas de maladie, et donc, tu peux pas simplement, pour avoir un travailleur, avoir, par exemple, toute une famille de 5 personnes à charge pour la société. Et je veux dire, il y a que la France qui fonctionne comme ça.
C'est intéressant ce que tu dis, Flora. Tu dis oui, mais tu comprends, les gens veulent pas travailler. Donc, en fait, si je comprends bien, on accepte de moins travailler et on prend des gens qui vont, eux, accepter de travailler à notre place dans des conditions difficiles, mais peu importe, ce sont des immigrés. Bah, je suis désolé, c'est une vision quand même, si on est de gauche, qu'on peut pas accepter.
C'est
pourtant ce qu'on fait depuis des années. Bah si, depuis des années, on explique, vous comprenez, maintenant, moi, j'ai plus envie de travailler le week-end, j'ai plus envie de travailler le soir, etc. Mais c'est pas grave, il y a des gens venus d'Afrique qui vont faire le travail pour nous. Bah, c'est une vision.
Non, je décris une réalité qui est qu'aujourd'hui.
Mais est-ce qu'on doit défendre
d'ailleurs,
ça?
D'ailleurs, c'est pas moi qui le fais, c'est notre auditeur.
D'accord,
il dit que le samedi matin, c'est des étrangers qui veulent travailler.
Je te dis qu'on a un problème avec le travail en France, tu me dis ah oui, c'est facile dans une position de dire ça. Bah oui, mais le problème c'est que si on fait pas le travail, d'autres le font pour nous.
C'est marrant de voir comment la gauche dite antiraciste et le patronat convergent.
Mais je suis assez d'accord.
Pour exploiter, par exemple, les livreurs Uber Eats.
C'est pas ce que je décris une réalité. Je dis juste que aujourd'hui, typiquement, travailler le samedi matin, ça intéresse pas les Français. C'est ce que le producteur dit. C'est peut-être là qu'est le problème.
Il faudrait chercher un
peu. Mais ça, c'est factuel. Et je dis, oui, mais je dis, c'est facile.
Il y a plus un médecin qui veut bosser le week-end, c'est un problème.
C'est facile de dire que les gens sont des feignasses quand nous-mêmes nous sommes assis sur notre fauteuil.
Oui, mais c'est facile aussi. C'est pas grave, on fera venir des immigrés d'Afrique qui feront le travail qu'on veut faire.
Au moins, ça confirme une chose, ce débat, c'est que le cliché de l'immigré qui vient en France pour les prestations sociales uniquement, il est battu en brèche par tout ce qui vient d'être dit.
Voilà.
Je remercie.
Non, parce qu'il y a le regroupement familial derrière.
Ah oui,
donc il n'est pas battu en brèche.
Parce que peut-être que madame ne veut pas travailler, évidemment, elle vient pour les prestations sociales uniquement.
Et ne serait-ce que les enfants, par définition, ne peuvent pas travailler.
Donc l'immigration cause problème, la crise du logement.
Voilà ce qui est hypocrite. Ce qui est hypocrite, c'est de dire, on va faire notre travail que nous, on veut plus faire la nuit, le samedi matin, à un immigré, mais on va pas accueillir ses enfants dans nos écoles, on va pas accueillir son épouse.
Et on va pas
le soigner quand il aura un problème de santé.
On va pas accueillir sa famille. On l'accueille lui pour travailler, on l'accueille pas sa famille.
Ça, c'est pas ma vision de l'immigration.
Sur la société.
L'immigration, c'est dur, mais ça promet des futurs meilleurs.
Oui, mais derrière, tu peux pas intégrer, tu peux pas gérer.
Mais pourquoi on pourrait pas intégrer?
Derrière, t'as les gens qui votent pour le RN, t'as tous les problèmes d'intégration divers et variés.
Jean-Loup, en quoi on pourrait pas intégrer? Il y a un Français sur quatre qui a des grands-parents immigrés. Moi, mais tous mes grands-parents sont immigrés, je suis très bien intégré à la société française. Donc, en fait, c'est pas vrai. Le deal, c'est dur d'immigrer. On travaille dur, mais on a des perspectives d'avenir meilleures.
On travaille dur.
Grâce à la France,
tous les immigrés qui ne travaillent pas, tu es d'accord pour les renvoyer.
Ce que je dis, c'est on a des perspectives d'avenir grâce à ces services publics, grâce à la France et grâce à son école. Aujourd'hui, la promesse, elle est vissée.
Viens, mais soit tu finis
sous un pont à prendre du crack, soit tu travailles, mais tu dégages trois ans après. C'est pas un modèle qui est viable.
C'est aussi hypocrite de penser qu'en travaillant moins,
bien sûr que ça a un coût.
Et qu'on pourra assumer tout ça. Parce que ton modèle, c'est nous, on va travailler de moins en moins, nous, les bons petits Français.
On fera faire le travail par les autres, par nos esclaves immigrés.
Et tout ça, on financera en travaillant moins. Avec toujours plus de dépenses sociales. Ça, il faudra que tu m'expliques comment mathématiquement tu fais.
Va dans une usine toute la nuit et on va voir si tu sais faire ça.
Il n'y a plus d'usine, malheureusement.
Merci à Ethan d'avoir été avec nous dans un instant. On va continuer d'en discuter avec Julien. Julien, il est infirmier. Il est du côté de l'Hérault, du côté de Montpellier. Gérald Darmanin veut arrêter l'immigration pendant 3 ans. Il veut un moratoire. Est-ce que c'est faisable? Vous venez continuer d'en parler avec nous au 32-16. Il est 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
1, 2, 3, 4.
On reprend notre discussion sur ce que souhaite Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Il veut un moratoire sur l'immigration. Vous savez, candidat, lui aussi, Gérald Darmanin, la perspective de 2027. Et il dit, voilà, l'immigration, aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut y mettre un frein. Ça doit être tranché lors de la prochaine élection présidentielle. Il veut réformer la Constitution, avoir des quotas limitatifs sur l'immigration. Il veut qu'aujourd'hui, le titre de séjour ne donne pas immédiatement le droit de faire venir sa famille. Julien veut en parler avec nous. Julien, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bienvenue, bonjour. Julien. Merci d'être avec nous au 32-16. Qu'est-ce que vous en dites, vous, l'infirmier de l'Hérault?
Moi, je pense que c'est du flan, parce qu'on est un pays qui est vieillissant, incapable de se réformer, et du coup, on va avoir besoin de l'immigration pour faire tourner le pays. C'est aussi simple que ça. Et après, il y a un autre problème. L'être humain, il a toujours voyagé sur la planète. Alors, les anciens, ceux qui ont été au pouvoir, n'ont jamais trouvé les solutions, et ceux qui prétendent accéder au pouvoir n'en ont pas plus. Alors, ça leur fait tous plaisir de taper sur l'immigration. Mais en attendant, il y a des millions. Moi, je suis né en Inde, donc pour vous dire.
Vous êtes né en Inde, c'est ça?
D'immigrés ou d'immigration qui travaillent dans ce pays, qui font tourner ce pays. Mais on se focalise sur les minorités, effectivement, qui font le bordel et qui branlent rien.
Mais Julien, Gérald Darmanin ne s'en prend pas à l'immigration comme cela. Lui, il dit qu'il y a un défaut d'assimilation et d'intégration. Et que pour mieux intégrer et assimiler les personnes qui sont là, il faut un moratoire. En gros, on arrête les entrées pour pouvoir mieux traiter ceux qui sont là.
Mais un moratoire, pourquoi pas, je sais pas. Mais déjà qu'on arrête, dès qu'il y a une vague migratoire, de les mettre tous au même endroit. Moi, j'ai un quartier,
voilà, une sous-essence qui s'appelle
la Motte. Ah, oui. Il y a eu l'immigration venue de, d'Algérie à la fin de la guerre d'Algérie, l'immigration d'Afrique noire, maintenant c'est l'immigration des pays de l'Est. Ils sont tous au même endroit. Alors qu'on pourrait les dispatcher sur le territoire. Il y a les territoires ruraux qui se meurent, qui se désertifient.
Enfin, il faut du boulot aussi.
Bah oui, mais les mecs, on peut les former à être boulangers, peuvent reprendre un commerce. Enfin,
c'est vrai.
À partir du moment où on met les gens dans le même endroit, ça ne peut que péter. C'est des poulières.
Mais là, vous êtes sur l'immigration du travail. Voilà.
Bah oui, mais l'immigration du travail, pareil, dans la santé, on a fait venir un paquet de médecins au début des années 2000, des Malgaches, des Russes et tout ça. Et comme leur diplôme n'était pas reconnu, en plus, c'est des spécialistes, on en manque aujourd'hui. Des spécialistes.
Mais Julien, vous êtes infirmier à l'hôpital ou infirmier libéral?
Non, je ne suis pas libéral, je travaille dans une clinique privée.
Clinique privée, d'accord. Ouais. Est-ce que vous côtoyez des infirmiers issus de l'immigration, justement?
Ah oui, mais moi, du plus bas de l'échelle jusqu'au même au médecin, on enlève les immigrés, le système, enfin, je ne sais pas pour l'hôpital parce que je ne travaille pas, mais en tout cas, même dans le privé, on est dedans. Hein.
Mmh. Et là, ouais, mais en plus, on a fermé numerus clausus.
On a toute la génération de baby boom qui va rentrer dans le grand âge de la dépendance. Donc si stoppe l'immigration là, ben, on est dans la merde. Hein.
Et surtout, comme le dit très bien Julien, c'est-à-dire on prend la minorité qui fout la merde, en fait, pour mettre de la confusion dans le débat. Parce que je prends un exemple tout simple. Quand, par exemple, il y a des jeunes qui cassent ou des rixes, t'entends les débats sur les plateaux télé, on dit c'est à cause des flux migratoires. Ben non, ces jeunes, ils sont français et leurs parents, ils ont mon âge en général. Leurs parents sont nés dans les années 80 et 90. Donc on finit par tout mélanger et on dit on veut plus de l'immigration. Donc qu'est-ce que ça fait? Il y a des jeunes qui se disent mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être français? Parce que quoi qu'on fasse, on ne nous accepte pas. Donc faut être très précis sur quel type d'immigration on serre la vis, en fait. Parce que là, c'est trop confus et je ne vois aucun projet clair de la part de celui-ci.
Par secteur d'activité, alors, à ce moment-là.
Non, mais aussi, sur quel type d'immigration on serre la vis? Bah, je sais pas, peut-être en fonction des zones d'origine. Moi, je pense qu'il y a des zones qui sont plus difficiles à intégrer que d'autres et qu'il faut le dire. Voilà. Je pense qu'un homme non diplômé et d'origine afghane, il est plus difficile à intégrer qu'un médecin d'origine marocaine qui parle déjà français. Voilà. Excuse-moi, un Afghan, quand tu vois le décalage économique, culturel, le niveau de violence, la situation des femmes, les idéologies radicales en Afghanistan, et tout simplement le décalage culturel, le rapport au temps, le rapport à la vie. Un mec qui en plus vient d'Afghanistan et n'a pas de diplôme, il va quand même être a priori plus dur à intégrer qu'un médecin de la classe moyenne marocaine.
Déjà, ce qui est bien, c'est que je note une évolution. Déjà, les Marocains, les Maghrébins, ouf, on finit par les accepter. Bon, maintenant, quelqu'un qui vient...
Ah bah pas forcément, ça dépend à quel niveau
mais c'est bien, il y a une évolution. Tu es obligé d'évoluer.
Ça dépend de quel niveau de diplôme tu as.
Maintenant, quelqu'un qui vient d'un terrain de guerre, c'est-à-dire que le droit d'asile, on en fait quoi?
Bah moi, je suis pour la suppression du droit d'asile, tout simplement.
C'est là on sera.
C'est marrant parce que les Afghans, ils ont un pays voisin qui s'appelle le Pakistan, qui est proche géographiquement, qui est proche culturellement, qui partage la même religion. Bah, il y a même des ethnies aussi, en commun, hein, comme peut-être. Les Pashtuns. Eh bien, les Pakistanais, la population pakistanaise n'en peut plus de l'immigration afghane et les immigrés afghans sont massivement expulsés vers l'Afghanistan.
Il y a le même problème en Iran.
L'Iran a expulsé des dizaines de milliers d'Afghans, qui d'ailleurs ont été accusés d'avoir fourni des renseignements à Israël, ont été expulsés parce que la population n'en peut plus. Alors que ces deux pays voisins, qui sont proches culturellement, qui sont proches linguistiquement, et la population iranienne n'en peut plus. La Turquie n'en peut plus de l'immigration.
Voilà. Je remercie Julien. Merci d'avoir été avec nous, Julien. Merci, bonne journée, à bientôt. Ce qui est intéressant de regarder, c'est les discours sur l'immigration. Là, les deux derniers qui ont fait débat. Tu as donc Gérald Darmanin, qui dit bon voilà, il faut arrêter parce que ça met à mal la société française. Et tu as François Ruffin, qui lui est sur une autre problématique de l'immigration, en disant cette immigration, ça tire les salaires vers le bas. Et voilà, il y a venir du monde.
Oui, c'est ce qu'il dit. Oui. Parce que c'est intéressant parce qu'à gauche, c'est aussi un débat. Parce que lui, il dit l'immigration ne peut pas être utilisée comme une variable d'ajustement économique par le patronat. Voilà. Et d'ailleurs, il est hostile à l'immigration de travail parce qu'il dit que les Français, on va faire ce qu'on a fait dans l'industrie, dans les services, on va importer une main-d'œuvre étrangère peu chère au lieu d'augmenter les salaires et au lieu d'améliorer les conditions de travail. Ce qu'on disait tout à l'heure un peu avec notre ami chauffeur poids lourd. Bien sûr qu'on trouve des immigrés pour faire les boulots que les Français ne veulent pas faire. Mais est-ce que ça tire vers le haut ou ça tire vers le bas?
Il a valu d'ailleurs à François Ruffin des critiques dans sa famille de gauche. On lui dit qu'il épouse le discours du Rassemblement national.
Ce qu'il raconte, c'est ce que disait Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste dans les années 70. Il y avait des affiches, on a oublié, communiste.
Le PCF était anti-immigration.
Moins d'immigrés et priorité aux Français.
Priorité nationale.
Et c'est d'ailleurs D'ailleurs, ce terme de priorité nationale a été ensuite repris par Jean-Marie Le Pen, mais les communistes l'utilisent
dans les 70, c'est vrai. Non, mais sauf que le problème, c'est que on est un petit peu, entre guillemets, dans l'inversion victimaire. C'est parce que les Français ne veulent pas faire ces postes et parce que les postes sont vacants. C'est ça le problème. Ouais. C'est ça la problématique.
Mais parce que
l'immigré vient prendre la place.
Donc la
première problématique, c'est que certains Français ne veulent pas travailler.
C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis, on a un problème avec le travail en France. Et Flora me dit, oui, mais tu comprends, c'est les travaux difficiles.
Oui, mais donc le problème, c'est pas l'immigré qui veut travailler. C'est le patron qui paye pas bien.
Le problème, c'est pas l'immigré. Le problème, c'est l'organisation de la société. Est-ce qu'on peut accepter une société où finalement
Plus personne ne travaille,
on fait la semaine des trois jours, où on a des RTT,
et on fait venir plein d'immigrés du tiers-monde.
Et c'est des gens qui viennent du tiers-monde, qui ont des racines quand même en quelque sorte, qui ont des racines, qui viennent chez nous, qu'on paye pas très bien parce qu'on n'a plus les moyens de payer très bien, puisqu'il y a tellement de gens à assister en quelque sorte, que si on travaille pas, ben c'est la société qui
Oui, mais l'immigration n'est pas responsable des salaires bas.
Elle tire vers le bas les salaires. Elle fait pression sur les salaires vers le bas.
C'est pas l'immigration qui est responsable des salaires bas.
Mais si.
Alors en quoi l'immigration est responsable du salaire bas? Puisque quand l'immigré arrive, le poste est vacant. Le salaire est déjà bas. Donc l'immigré, il répond à une offre,
Tu penses qu'on s'attaque, pas à l'immigré?
Mais simplement, c'est l'organisation. Je te pose une question simple.
Ah oui, c'est l'organisation. Mais bien sûr.
Le travail est vacant, le salaire est faible déjà. Donc l'immigré, il vient, il prend le travail. Donc en quoi?
Parce que le patron va pas augmenter le salaire.
Ma question, en quoi il a été responsable l'immigré du fait que le salaire soit bas?
S'il prend le boulot, le patron va pas dire, tiens, j'aurais dû augmenter.
Mais tu réponds pas à ma question. Ben non, si puisque le travail est vacant, le salaire est bas, l'immigré prend le travail.
Oui,
non,
mais j'ai bien compris.
Ben oui, donc je répète parce que tu réponds pas à ma question.
Là, moi, je vais
c'est
répondre.
Pas l'immigré qui a fait baisser le salaire, c'est peut-être le patron.
C'est pas lui en tant que tel.
C'est peut-être le patron qui a trop de charges. Voilà, c'est autre chose. Il ne faut pas présenter la situation comme si c'était l'immigré qui tirait le salaire vers le bas.
C'est pas l'immigré, mais c'est l'immigration. Parce que s'il n'y avait pas l'immigration pour occuper le poste vacant, le patron serait obligé de
augmenter le salaire. Le poste, il est vacant pourquoi?
Non, mais sans l'immigré pour l'occuper, le patron
Mais vous n'êtes pas logique, puisque le poste est vacant.
Non.
Oui, mais il est vacant avec un salaire aussi bas.
Allez, vous n'êtes pas logique.
J'aimerais revenir sur un point.
Sur le BTP, la manière d'être compétitif, c'était d'avoir des salaires moins bien payés, d'accord?
Enfin,
d'avoir
des salaires. Que seuls les immigrés acceptent.
Et que seuls les immigrés acceptaient. C'est ce
et
qui a
s'il
permis
de faire. Si il immigrés, il faudrait monter le salaire.
Mais donc,
si
on te rappelle l'histoire du plombier polonais?
C'est juste ça.
Et j'aimerais revenir sur un point, parce que Abel, il a dit quelque chose d'intéressant. Il nous a dit, à propos, par exemple, de l'Afghanistan, mais le droit d'asile pour les gens qui fuient la guerre. Je tiens à rappeler que le droit d'asile, c'est quelque chose de précis. C'est pas pour accueillir les gens qui fuient la guerre. C'est pour accueillir des gens qui, normalement, se sont engagés politiquement dans leur pays et sont précisément persécutés à cause de leurs convictions et de leur engagement actif. Mais la guerre n'est absolument pas un motif de droit d'asile. Sinon, on accueillerait toute la
terre.
Donc, c'est pas parce qu'il y a la guerre en Afghanistan.
Il y a qui a fait une fixette sur l'Afghanistan.
Le droit d'asile est massivement détourné en France. Et je rappelle, puisque tu me parles du droit d'asile, que l'assassin de Samuel Paty est venu en France grâce au droit d'asile, qui avait été détourné, comme il est déjà très, très, très massivement détourné en France. T'as plein de gens qui viennent de pays africains, qui prétendent qu'ils sont homosexuels, alors qu'ils ne sont absolument pas homosexuels. Voilà. T'as des gens qui sont liés à des organisations terroristes, par exemple à Daesh, et qui disent on est persécuté par Ramzan Kadyrov en Tchétchénie, donc donnez-nous l'asile. Mais en fait, ils sont persécutés parce qu'ils sont liés à des organisations terroristes que le gouvernement russe et tchétchène combat légitimement.
Écoute, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit qu'il faut accueillir tout le monde, toute l'immigration du monde.
Également, il y a des Afghans.
Je t'ai laissé parler. Effectivement, les personnes qui foutent la merde, faut les dégager, j'ai pas de problème avec ça, et il faut mieux, comment dire, surveiller les conditions d'accueil. J'ai pas de problème avec ça. Moi, ce que je dénonce, c'est un petit peu la confusion orchestrée par certains politiques autour du sujet qui font que des personnes françaises comme moi qui descendent de l'immigration ne sont pas acceptées comme pleinement françaises et sont toujours ramenées à leurs origines.
Oui, mais on parle pas de ça.
Mais
on parle pas de ça.
Mais c'est la conséquence sur le terrain.
Oui,
c'est
ça. Un étranger. Quoi.
Quand il y a des jeunes qui cassent, on dit. On voit les débats, c'est à cause des flux migratoires. Non, ces jeunes sont français, sauf qu'ils se comportent mal.
Oui, mais ceux qui te regardent comme ça sont des racistes. Si tu veux, je pense que ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que pour eux, qui que tu sois, même si tu mets un drapeau français sur le revers,
oui, je serai toujours
tu resteras,
un immigré.
Tu resteras pour eux un noir et donc un immigré.
Et ce qui fait que quand il y a ces débats qui sont mis sans projet fixe, moi, je vais être affilié à ça ou d'autres vont être affiliés à ça. Et c'est ça qu'on dénonce sur le terrain. C'est-à-dire que viens avec un projet. OK, système canadien, boum, tu expliques ta notice et là, on y va.
Oui, mais là, du coup, Darmanin, il fait des propositions. Là, tu fais un faux procès à Darmanin parce que là, Darmanin, il fait des propositions. On est d'accord ou pas?
Tu as noté la confusion des genres sur le fait que c'est pas très clair et qu'il se contredit aussi. Et
non, remarque... oui, d'accord, mais il fait des projets. Mais ce qui m'amuse, c'est que quand même, il fait des projets qui ressemblent un peu à ce que dit le RN. Parce que quand il dit, il faut changer la constitution, c'est ce que dit aussi le RN qui veut faire un référendum un homme pour changer la constitution.
En revanche, c'est Gabriel Attal qui est plus sur un système à la canadienne, mais à la carte. Mais moi, je suis en fonction des secteurs.
Je remarque,
on peut venir tant de personnes et le reste.
Je remarque que, par exemple, le parti social-démocrate de gauche danois, qui est au pouvoir, est extrêmement dur sur l'immigration, en disant nous, on est attaché à l'État-providence généreux. Avec l'immigration, notre modèle de protection sociale devient intenable et n'est plus viable. Donc, on est très ferme sur l'immigration.
En Suède, le
parti social-démocrate suédois qui a perdu le pouvoir a fait vraiment son aggiornamento sur l'immigration. Et t'as l'une des leaders du parti, qui est une femme suédoise d'origine kurde, Lawen Redar, qui est très dur sur l'immigration et qui dit on ne peut plus accueillir de nouveaux immigrés et c'est pas parce que ma famille est venue du Kurdistan il y a 40 ans que aujourd'hui on doit continuer les flux migratoires et accepter sur notre territoire des gens qui ne sont pas encore là. C'est pas parce qu'il y a eu de l'immigration dans le passé qu'elle doit être éternelle. Et elle est d'origine kurde et elle dit on peut pas continuer sur l'immigration.
Le seul sujet qui m'intéresse sur l'immigration, c'est pas que doit-on faire, c'est que peut-on faire. Et aujourd'hui, les propositions dans le vent, où on sait qu'il n'y a pas de pouvoir politique derrière, elles augmentent la défiance. Et on rentre dans une année présidentielle. Le RN, ils remettent tout sur le dos de l'immigration, mais avec une baguette magique. Moi, j'ai hâte de savoir ce que les candidats nous proposent de crédible et de réaliste. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème avec l'immigration aujourd'hui. C'est mal encadré, c'est mal régulé. Personne dirait le contraire, qu'on soit pro ou contre. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire pour à la fois avoir des travailleurs qui vont pouvoir bénéficier d'un système de protection, qui vont pouvoir être intégrés, mais à la fois ne pas accueillir des personnes qu'on va mal accueillir et qu'on va laisser dans les mains des dealers à Porte de la Chapelle. Ça, c'est intéressant. Et aujourd'hui, la question politique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ?
Faut-il arrêter l'immigration pendant 3 ans ? La proposition de moratoire de Gérald Darmanin, vous l'avez commenté, vous êtes d'accord à plus de 80%. À suivre dans les GG, dans les grandes gueules. Une victoire en Coupe d'Europe de rugby du côté de Bordeaux. Bordeaux-Bègles, pas d'incident. Une victoire en Coupe de France de Lens contre Nice. Pas d'incident. Comment ça se fait qu'on arrive à faire la fête sans incident ? Dites-moi du côté de Lens et du côté de Bordeaux. C'est au 32-16 que vous venez en discuter avec les grandes gueules. Il est 11h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG vous accompagnent en direct sur RMC et RMC Story avec aujourd'hui le trio Flora Guebali, Abel Boyi et Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, l'éducateur et la militante écologiste. On va s'intéresser à ces victoires sportives de clubs pro et qui n'ont pas créé d'incident. Ça, j'imagine. T'es pas obligé, franchement. On va remettre ça. Bravo à Lens, belle finale. On aurait pu, mais ça l'a pas voulu. Un poteau, une barre.
Ah ben ça, c'est l'histoire du poteau, maintenant.
Ben oui, bien sûr, un poteau, une barre.
Toujours.
Les Lensois ont gagné pour la première fois de leur histoire la Coupe de France. Ils sont rentrés en pleine nuit. Ils ont fait la fête le lendemain à Lens et il n'y a pas eu d'incident. Victoire aussi en Coupe d'Europe pour l'Union Bègles-Bordeaux. Pas d'incident. Célébration sans problème.
Le communiqué de la préfecture du Pas-de-Calais est incroyable. Voilà ce que la préfecture a publié. Elle faisait le bilan des festivités post-victoire du RC Lens. Aucune personne n'a été interpellée pour des faits de troubles à l'ordre public. Pas de violence, pas de dégradation ou infractions diverses. En fait, les personnes qui ont été prises en charge par les services de secours, c'est avant tout lié à une consommation excessive d'alcool. Les festivités, voilà ce que dit la préfecture, se sont déroulées dans un climat paisible et joyeux grâce à la mobilisation des forces engagées et au comportement responsable des supporters. Il y avait pourtant 60 000 supporters rassemblés pour féliciter et acclamer les joueurs. tout au long de la journée dans le centre-ville de Lens. Donc c'est possible en France de célébrer une victoire du foot, de célébrer la victoire de ton équipe, de se rassembler, peut-être d'avoir parfois un peu trop bu malheureusement, mais pourtant pas de violence. Donc pourquoi c'est possible à Lens et pourquoi ça ne l'est pas par exemple à Paris samedi prochain, il y a la finale de la Ligue des Champions opposant le PSG Arsenal. Il y a un dispositif policier dingo. On doit interdire les chants. La préfecture de police est quand même assez inquiète de ce qui va se passer samedi en cas de victoire parisienne. Pourquoi c'est possible à Lens et pas à Paris ou en région parisienne ?
Jean-Loup ? Ouais, parce que comme j'essaye de l'expliquer sur ce plateau depuis plusieurs années, la violence... elle est culturelle. Voilà, la délinquance, elle est culturelle. T'organises un événement avec des centaines de milliers de personnes au Japon, tout va très bien se passer, parce que il n'y a pas cette culture de la violence. T'organises un événement avec beaucoup moins de monde dans d'autres endroits, ça va très mal se passer. Parce que il y a culture de la violence. Ben, j'y viens. Et après, si tu zoomes au niveau de la France, eh ben, tu vois que pourtant, dans une ville qui est très populaire, parce que le niveau de revenu, il n'est pas très élevé à Lens, eh ben, tu vois que à Lens, il n'y a pas, dans le club de Lens, qui est un club, justement, très chaleureux, très convivial, très fraternel, avec un bon esprit, c'est un état d'esprit bon enfant, eh ben, t'as pas les problèmes de violence que tu peux avoir au PSG, par exemple. Donc, quand tu zoomes à l'intérieur d'un pays, tu vois la différence culturelle entre la culture du club Lens, ou la culture du rugby par exemple, et la culture du PSG, avec des phénomènes d'ultra qu'on connaît depuis plusieurs décennies, où il y a une culture de la violence, voilà, et où il y a probablement un travail répressif de la part des autorités qui n'est pas suffisant.
Il y a aussi quand même une délinquance d'opportunité, c'est-à-dire que on sait que ce jour-là, pour certains, c'est l'occasion d'en profiter pour déchaîner soit contre les forces de l'ordre, soit piquer des baskets dans un magasin.
Oui, mais ça n'arrive pas à Lens.
Voilà, et ça n'arrive pas à Lens.
Ça n'arrive pas au rugby.
Donc il y a aussi cette délinquance.
Mais moi, en plus, je vois un peu l'ambiance du club de Lens parce qu'il se trouve que depuis plusieurs années,
le centre-ville de Lens n'a pas été saccagé.
Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de culture de la violence dans ce club. Voilà. Et donc, de même que je pense qu'Abel sera d'accord, t'as des quartiers populaires qui ont a priori le même profil sociologique avec le même type de population, et t'en as qui sont beaucoup plus violents. T'as un quartier qui peut être beaucoup plus violent qu'un autre qui pourtant a le même profil, parce que il n'y a pas la même culture de violence dans l'autre quartier. Et donc ça, c'est un phénomène qui est assez net. Et il se trouve que je connais un peu Lens parce que j'ai beaucoup d'élèves depuis plusieurs années qui sont fans de Lens, et même cette année j'ai un élève qui est fan absolu, donc je le salue et je me réjouis pour lui.
Pas moi.
Et qui tous les week-ends va voir les matchs de Lens, il prend le bus, et en effet quand il te décrit l'ambiance, à tout point de vue, c'est beaucoup moins pourri par le fric que le PSG. Et que ce soit au niveau du club ou au niveau des supporters, l'ambiance est bien meilleure. Il n'y a pas ce mauvais état d'esprit.
Florent,
on ne parle pas de la même chose, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas les mêmes conséquences. On parle sans faire la parisienne, mais on parle de villes qui sont plus petites. On parle de clubs qui sont plus petits. On parle d'enjeux qui sont moins relayés à la télé de manière nationale. On parle de... Les médias nationaux, par exemple, n'étaient pas en train de filmer dans les rues ce week-end après le match, alors qu'ils sont tout de suite... par exemple, à BFM, il y a toujours des reporters qui suivent les after foot.
Ils y étaient à Lens pour la finale, la parade dans les rues, l'arrivée du bus. Ouais.
Quand le club de foot de Tokyo gagne, il n'y a pas la capitale du Japon qui est saccagé.
Je connais pas le foot japonais.
T'es pas obligé d'aller si loin. Tu vas à Madrid.
Tout à fait, à Madrid. Et d'ailleurs, juste une chose, quand il y avait eu la victoire du PSG, il y avait eu des émeutes et tout, il y a quelques années. Et je me souviens que le Qatar avait lui-même été surpris. Il disait, mais c'est quoi ce pays et cette ville où les gens, quand ils gagnent, retournent et saccagent, tu vois?
On va aller, avant de donner la parole à Abel, on a Aymeric qui veut réagir, qui est dans l'Oise. Bonjour Aymeric.
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour. Bienvenue Aymeric. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Pourquoi il n'y a pas eu de débordement alors?
Ah bah c'est très simple. Lens Nice, dans le stade, 80% de supporters de Lens, 20% de supporters de Nice, encadrement des supporters de Lens par un bus, les forces de l'ordre qui séparent les supporters de Nice de Lens, donc dans impossibilité de que les supporters se voient. Et après, concernant le rugby, le rugby c'est simple. Il y avait 2000 places pour les supporters de Bordeaux, 2000 places pour les supporters de Leinster. Et après, c'était vente libre. Donc
Oui, mais là, Aymeric, vous parlez du match, mais les incidents, là, on parle de la fête ensuite à Lens, ça aurait pu dégénérer à Lens, comme malheureusement, ça a dégénéré à Paris lorsque... Les matchs n'avaient pas lieu à Paris, donc c'est pas un problème d'occasion.
Moi, j'ai été à Paris l'année dernière, la finale de la Ligue des Champions, ouais. Je suis allé sur les Champs-Élysées jusqu'à minuit. Ça allait très bien. Après minuit, c'était le bazar. Mais jusqu'à minuit, tout allait très bien.
Ouais. Et moi, je pense qu'on est plus dans ces cas-là, dans des phénomènes de délinquance d'opportunité, en fait, comme le disait Olivier, pour reprendre son expression. Mais Aymeric, moi, vendredi, vous le savez, j'étais au match. J'étais dans le métro, j'y suis allé. On croisait, j'étais avec des supporters niçois, des copains, d'autres qui étaient là. On croisait des Lensois, on se tapait dans la main, on disait bon match. Tout a été bien fait, effectivement, pour que ça se passe correctement, que ça se passe bien. Ensuite, sur place, on a été canalisé. Il n'y a pas eu de rencontre des supporters. Mais.
Oui, mais c'est pas ça.
Non, mais je comprends bien. Et dans l'ensemble.
Il n'y aura pas de rencontre avec les supporters anglais, puisqu'ils ne sont pas là à Paris.
Non, bien
ça
sûr.
Ça n'empêchera pas la casse, malheureusement. Enfin, espérons-le.
Non, mais c'est parce que c'était pour répondre à ce que disait Aymeric sur le soir du match. Le soir du match, ça a été bien organisé, ça s'est bien passé, et les fauteurs de troubles n'étaient pas là. Donc je pense qu'à ce moment-là, que se passe-t-il? Pourquoi ça dégénère? Parce qu'il y a des fauteurs de troubles qui se mêlent aux vrais supporters.
Moi, je pense que c'est aussi.
Mettre la
on
pagaille.
Vient à Paris foutre le bordel.
Ouais, mais non, voilà, mais, moi, non, mais Olivier, tout à l'heure, t'as posé la bonne question. Mais... Olivier, il a posé la bonne question. Pourquoi est-ce qu'à Madrid, qui est la capitale de l'Espagne, ça n'arrive pas? C'est ça la vraie question.
Que...
Et une fois que tu y répondras, tu pourras régler.
Je pense que c'est la fracture.
Je suis assez d'accord avec toi. Paris, on vient pour faire tout péter. À Lens, par exemple, il y a des quartiers populaires aussi, avec de l'immigration, ça a pas pété. Mais je pense que quand il y a un Lens-Lille, des fois entre les ultras, ça peut péter
aussi.
Ça pète, je le sais. Donc, je travaille un petit peu dans le milieu. Maintenant, je pense aussi que quand on prend le public lensois, c'est aussi, comme l'a dit Flora, c'est des villes plus petites. On est plus attaché aussi à son territoire.
C'est plus Paris, chaleureux, il y a plus de convivialité.
C'est plus chaleureux, il y a plus d'humanité. Paris, c'est une ville monde. Il y a qu'à voir. Par exemple, tu es niçois, Alain. Tu vois, tu redescends à Nice souvent. On n'a pas la même attache à Paris. Paris cristallise tout en fait.
Mais Abel, t'as pas
les convoitises et toutes les tensions.
Il y a pas un côté aussi la banlieue qui prend sa revanche sur Paris. Il y a pas cette fracture aussi parfois entre banlieue et Paris, où quand on habite en banlieue, on a l'impression que Paris c'est un peu inaccessible, où il y a finalement vivent les riches avec tous les services, etc. Et en banlieue, donc c'est la revanche ce jour-là.
Parmi les casseurs, t'as aussi bien des jeunes de banlieue que des jeunes. Ah bah si,
oui.
T'as des ultras,
oui, non,
des
c'est vrai,
cartes,
a,
ah,
oui,
si,
c'est
si,
vrai,
si, hein.
Je parle de vraiment ceux qui cassent.
Non, mais
magasins,
parce que, en fait, quand on arrête les casseurs.
On a aussi,
Abel a tout à fait
et
raison.
Les Black Blocs, c'est pas des enfants de banlieue non plus.
Quand t'arrêtes les casseurs, t'es très surpris parce que tu trouves à la fois plein de mecs type cité qui peuvent être pauvres, issus de l'immigration, et plein d'autres, même des jeunes cadres qui gagnent 3000 euros par mois et qui vont se faire un shoot d'adrénaline. Alors, ils sont pas forcément ensemble, ils sont pas forcément dans les mêmes organisations d'ultra.
Pourquoi ça? On est à Paris et pas ailleurs.
Voilà.
Philippe est avec nous, Philippe des Yvelines. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour messieurs, madame.
Comment ça se fait que ça s'est bien passé à Lens et à Bordeaux alors?
Alors déjà, c'est pas le même sport. Le rugby, si vous venez, moi je suis du Sud-Ouest, il y a une culture de supporters. Si vous venez foutre la merde après un match de rugby, les mecs ils vous défoncent. Donc là c'est réglé. Il y a pas, et les branleurs, ils savent très bien qu'ils peuvent pas venir là. Au foot, ça dépend. Effectivement, à Lens, on a vu des supporters exemplaires parce que c'est cadré. Il y a une culture commune, il y a une idéologie. Les gars, ils se tiennent. Ils sont issus de divers endroits, mais ils se tiennent. C'est peut-être, je sais pas, la culture mineure, j'en sais rien.
Oui,
mais
voilà. Il y a cet attachement.
Il y a quelque chose. Il y a un attachement à un
attachement
club.
Oui, une fierté locale.
Une fierté locale.
Comme dans le Sud-Ouest pour le rugby.
Ce que vous avez quand le PSG joue, vous avez c'est comme les chasseurs, le bon supporter et le mauvais supporter. Voilà. Si les flics avaient la possibilité de les arrêter, je pense qu'on leur interdit de les arrêter quand il y a des émeutes. Si on croisait les fichiers entre ceux qui ont mis la merde, dans les manifs du gilet jaune de première mouture, il y avait les gilets jaunes, il y avait les black box, puis derrière, il y avait les radias, les pilleurs, les opportunistes de la violence. Je suis sûr qu'on retrouve les mêmes. On retrouve les 3-4 000 mêmes. Qui profitent de chaque occasion, ils sont pas forcément intéressés par le foot et le PSG, mais ils savent qu'il va y avoir du monde, ils savent que ça va bien se passer, et après ils arrivent, ils raflent, ils pètent, Ils agressent.
C'est de la délinquance. C'est de la délinquance.
Oui, de la pure délinquance.
Et c'est de la délinquance d'opportunité, comme dit Philippe.
Ils sont jamais punis. C'est l'impunité. Donc, ils recommencent à chaque fois.
Et comme vous dites, Philippe, par exemple, Lens fait briller tout un département, en fait. C'est-à-dire qu'il y a encore cette culture du terroir où, par exemple, je peux être en galère, je peux être en difficulté financière, mais mon club fait briller mon territoire. Au Paris Saint-Germain, t'as pas ça. C'est un club monde. Le Paris Saint-Germain, dans son ADN, n'est pas un club parisien, en réalité.
Jérôme veut réagir pour terminer. Bonjour, Jérôme.
Bonjour.
Et comment vous l'expliquez-vous, Jérôme, alors? Jérôme de Saint-Denis.
Ouais, alors moi, je suis de Seine-Saint-Denis, je suis originaire du Sud-Ouest, donc j'étais à la finale à Bilbao, et du matin jusqu'à l'après-midi, on était tous mélangés. Il y avait des Irlandais, des Français, il y avait même des Hongrois, des Italiens, des Anglais. C'est tout, c'est la culture du rugby. Après, c'est pas la culture du foot.
Ouais, c'est vrai aussi.
Oui, mais au foot, Lens, c'est du foot. Je suis tout à fait d'accord que le rugby n'a pas, on voit bien, encore une fois, je le répète, que c'est culturel. Le rugby n'a pas cette culture de violence et de mauvais esprit. Mais même dans le foot, puisqu'on a aussi le club de Lens, un club comme Lens, c'est du foot. Et pourtant, ils ont pas non plus ce mauvais état d'esprit, cette culture de la violence. Ouais, parce qu'on l'a dit, c'est plus humain, c'est plus fraternel, c'est plus convivial, c'est plus chaleureux. Il y a des gens qui sont en galère, comme l'a très bien dit Abel, bah ils vivent un peu par procuration à travers le club. Il y a une identité locale dont ils sont très fiers. Et donc ça, voilà, c'est encore une fois un problème culturel. Et je suis désolé, à Paris, la mentalité est pourrie.
Merci d'avoir été avec nous. Et je voulais quand même saluer aussi les Lensois, puisque l'autre soir, pendant le match, à la 86e minute, exactement, c'est la tradition. Ouais. Dans les matchs de Nice, il y a un hommage qui est rendu aux victimes des attentats du 14 juillet. On fêtera les 10 ans cette année. Et tous les supporters lensois, qui étaient beaucoup plus nombreux qu'eux, ont allumé leur téléphone portable pour rendre hommage.
Et il faut dire que Lens, depuis plusieurs dizaines d'années, c'est peut-être le meilleur public de France, côté foot.
Et ambiance, les corons, et voilà, il y a une identité locale.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, est-ce qu'on a envie de vivre 1000 ans? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir réaliser pour nous? Vivre 1000 ans quand l'IA règne et la mort recule, c'est le thème du livre de Laurent Alexandre, et il sera dans les GG. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.